Lucien Levenne, chapitre 30. Après les deux robes, qui avaient paru à Levenne d'une longueur interminable, il eut encore à soutenir sa partie dans l'histoire de l'enterrement d'un cordonnier auquel l'un des curés de la ville avait refusé le matin l'entrée de l'église. Levenne écoutait, en pensant à autre chose, cette dégoûtante histoire, quand le grand vicaire s'écria « Je n'en veux pour juge que M. Levenne lui-même, quoique engagé au service. » La patience échappa à Levenne. « C'est précisément parce que je suis engagé à ce service et non pas, quoique, que j'ai l'honneur de prier M. le grand vicaire de ne rien dire qui me force à faire une réponse désagréable. » « Mais, monsieur, cet homme réunissait les quatre qualités, acquéreur de biens nationaux, détenteur du, à l'époque du décès, marié devant la municipalité, n'ayant pas voulu contracter un nouveau mariage à son lit de mort. Vous en oubliez un cinquième, monsieur, payant une part de l'impôt qui pourvoit à vos appointements et aux miens. » Et il partit. Plusieurs réponses de la sorte auraient pu ruiner la bonne réputation dont Lucien jouissait, mais celle-ci fut à propos. Cependant, ce mot eut fini par le perdre, ou du moins par diminuer de moitié la considération dont il jouissait dans Nancy, s'il eût dû habiter encore longtemps cette ville. Il rencontra dans cette maison son ami le docteur Dupoirier, qui le prit par un bouton de son uniforme et, bon gré, mal gré, l'emmena se promener sur la place d'armes pour achever de lui expliquer son système de restauration pour la France. Le code civil, par les partages qui suivent le décès de chaque père de famille, va amener la division des terres à l'infini. La population augmentera, mais ce sera une population malheureuse et manquant de pain. Il faut rétablir en France les grands ordres religieux. Ils auront de vastes propriétés et feront le bonheur du petit nombre de paysans nécessaires à la culture de ces vastes domaines. Croyez-moi, monsieur, rien de funeste comme une population trop nombreuse et trop instruite. Levenne se conduisit fort bien. « Cela est plausible, répondit-il. Il y a beaucoup à dire. Je ne suis point assez préparé sur ces hautes questions. » Il fit quelques objections, mais ensuite eut l'air d'admettre les grands principes du docteur. « Mais ce coquin-là, se disait-il tout en écoutant, croit-il à ce qu'il me dit ? » Il examinait attentivement cette grosse tête sillonnée de rides si profondes. « Je vois bien là-dessous la finesse cauteleuse d'un procureur bas normand, mais non la bonhomie nécessaire pour croire à ses bourdes. » Du reste, on ne peut refuser à cet homme un esprit vif, une parole chaleureuse, un grand art à tirer tout le parti possible des plus mauvais raisonnements, des suppositions les plus gratuites. Les formes sont grossières, mais en homme d'esprit et qui connaît son siècle, loin de vouloir corriger cette grossièreté, il s'y complaît. Elle fait son originalité, sa mission et sa force. On dirait qu'il l'exagère à dessein. C'est un moyen de succès. La noble fierté de ces hauts bureaux ne peut pas craindre qu'on le confonde avec eux. Le plus sot peut se dire « Quelle différence de cet homme à moi !» Et il en admet plus volontiers les bourdes du docteur. S'il triomphe contre 1830, ils en feront un ministre, ce sera leur corbière. « Mais 9 heures sonnent, » dit-il tout à coup au docteur Dupoirier. « Adieu, cher docteur, il faut que je quitte ces raisonnements sublimes qui vous porteront à la chambre et que vous finirez par mettre à la mode. Vous êtes vraiment l'homme éloquent et persuasif par excellence. Mais il faut que j'aille faire ma cour à Madame d'Aucuncourt. »
C'est-à-dire à Madame de Chastelet. Ah, jeune tête, vous prétendez me donner le change à moi. »
Et le docteur Dupoirier, avant de se coucher, alla encore dans 5 ou 6 maisons savoir les affaires de tous, les diriger, les aider à comprendre les choses les plus simples, tout en ménageant leur vanité infinie et parlant de leurs aïeux au moins une fois la semaine à chacun, et prêcher sa doctrine des grands établissements de moines quand il n'avait rien de mieux à faire ou quand l'enthousiasme l'emportait. Il décida chez l'un le jour où l'on ferait la lessive, chez l'autre, et il décidait bien, car il avait du sens, beaucoup de sagacité, un grand respect pour l'argent, et était sans passion à l'égard de la lessive et de... Pendant que le docteur parlait lessive, Leven, la tête haute, marchait d'un pas ferme, avec la mine intrépide de la résignation et du vrai courage. Il était satisfait de la façon dont il remplissait son devoir. Il monta chez Madame d'Aucuncourt, que ses amis de Nancy appelaient familièrement « Madame Doc ». Il y trouva le bon monsieur de Serpierre et le comte de Vassigny. On parlait de l'éternelle politique. Monsieur de Serpierre expliquait longuement, et malheureusement avec preuve, comment les choses allaient au mieux avant la Révolution, à l'intendance de Metz, sous Monsieur de Calonne, depuis ministre si célèbre. « Ce courageux magistrat, disait Monsieur de Serpierre, qui sut poursuivre ce malheureux La Chalotais, le premier des Jacobins, on était alors en 1779, 71. » Leven se pencha vers Madame d'Aucuncourt et lui dit gravement « Quel langage, madame, et pour vous et pour moi !» Elle éclata de rire. Monsieur de Serpierre s'en aperçut. « Savez-vous bien, monsieur ? » reprit-il d'un air piqué en s'adressant à Leven. « Ah, mon Dieu, me voici en scène !» pensa celui-ci. « Il était écrit que je tomberais du Poirier dans le Serpierre. »« Savez-vous bien, monsieur ?» continuait Monsieur de Serpierre d'une voix tonnante, que les gentilshommes un peu titrés ou parents des titrés faisaient modérer les tailles et capitations de leurs protégés ainsi que leurs propres vingtièmes. Savez-vous que quand j'allais à Metz, je n'avais point d'autre auberge, moi qui vous parle, ainsi que tout ce qu'il y avait de comme il faut en Lorraine, que l'hôtel de l'intendance de Monsieur de Calonne, là. Tables somptueuses, des femmes charmantes, les premiers officiers de la garnison, des tables de jeu, un ton parfait. Ah, c'était le beau temps. Au lieu de cela, vous avez un petit préfet, morne et sombre, en habit râpé, qui dîne tout seul et fort mal, en supposant qu'il dîne. Grand Dieu, pensait Leven, celui-ci est encore plus ennuyeux que le du Poirier. Tandis que pour amener la fin de l'allocution, il se contentait de répondre au discours de Monsieur de Serpierre par une pantomime admirative, le peu d'attention qu'il donnait, et à ce qu'il écoutait, et à ce qu'il faisait, laissèrent reprendre tout leur empire aux pensées tendres. « Il est évident, se disait-il, que sans être le dernier des hommes, je ne puis plus me présenter chez Madame de Chastelet. Tout est fini entre nous. Je ne puis plus me permettre, tout au plus, que quelques rares visites de convenance de temps à autre. En termes de l'art, j'ai mon congé. Les comtes Rollet, mes ennemis, le grand cousin Blancet, mon rival, qui dîne 5 jours de la semaine à l'hôtel de Pont-Levé et prend du thé tous les soirs avec le père et la fille, tout cela va bientôt s'apercevoir de ma disgrâce, et je vais être tympanisé d'importance. Gare le mépris, monsieur aux belles livrées jaunes et aux chevaux fringants. Tous ceux dont vous avez fait trembler les vitres par le retentissement des roues de vos voitures qui ébranlent le pavé, célébreront à l'envi votre échec ridicule. Vous tomberez bien bas, mon ami. Peut-être les sifflets vous chasseront-ils de ce Nancy que vous méprisez tant. Jolie façon pour cette ville de se graver dans votre souvenir. » Tout en se livrant à ces réflexions agréables, les yeux de Leven étaient fixés sur les jolies épaules de Madame d'Aucuncourt, qu'une charmante camisole d'été, arrivée de Paris la veille, laissait fort découverte. Tout à coup, il fut éclairé par une idée. « Voilà mon bouclier contre le ridicule ! Attaquons !» Il se pencha vers Madame d'Aucuncourt et lui dit tout bas. ce qu'il pense de monsieur de Calonne qu'il regrette tant. Je le pense, moi, de notre joli tête-à-tête de l'autre jour. Je fus bien gauche de ne pas profiter de l'attention sérieuse que je lisais dans vos yeux pour essayer de deviner si vous voudriez de moi pour l'ami de votre cœur.
Tâchez de me rendre folle, je ne m'y oppose pas, dit madame d'Aucuncourt d'un air simple et froid. Elle le regardait en silence avec beaucoup d'attention et une petite moue philosophique charmante. Sa beauté, en ce moment, était relevée par un petit air de grave impartialité, délicieux.
« Mais, ajouta-t-elle quand il eut fait tout son effet, comme ce que vous me demandez n'est point un devoir, au contraire, tant que je ne serai pas folle de vos beaux yeux, mais folle alliée, n'attendez rien de moi. »
Le reste de la conversation à mi-voix répondit à un début aussi vif. Monsieur de Serpierre cherchait toujours à engager Leven dans ses raisonnements. Lucien l'avait accoutumé à beaucoup de complaisance de sa part quand il le rencontrait chez lui sans madame de Chastelet. À la fin, monsieur de Serpierre vit bien au sourire de madame d'Aucuncourt que l'attention que lui prêtait Leven ne devait être que de la politesse pénible. Le vénérable vieillard prit le parti de se rabattre complètement sur monsieur de Vassigny, et ces messieurs se mirent à se promener dans le salon. Leven était du plus beau sang-froid. Il cherchait à s'enivrer de la peau si blanche et si fraîche et des formes si voluptueuses qui étaient à deux pieds de ses yeux. Tout en les louant beaucoup, il entendit que le Vassigny répondait à son partenaire en tâchant de lui inculquer les grands ordres religieux de monsieur du Poirier et les inconvénients de la division des terres et d'une population trop nombreuse. La promenade politique de ces messieurs et la conversation galante de Leven duraient depuis un quart d'heure lorsque Leven s'aperçut que madame d'Aucuncourt n'était pas sans intérêt pour les propos tendres qu'il débitait à grand effort de mémoire. En un clin d'œil, cet intérêt lui fournit des idées nouvelles et des paroles qui ne furent pas sans grâce. Elles exprimaient ce qu'il ressentait. Quelle différence de cet air riant, poli, plein de considération, avec lequel elle m'écoute, et de ce que je rencontre ailleurs. Et ces bras potelés qui brillent sous cette gaze si transparente. Ces jolies épaules dont la molle blancheur flatte l'œil. Rien de tout cela auprès de l'autre. Un air hautain, un regard sévère et une robe qui monte jusqu'au cou. Plus que tout cela, un penchant décidé pour les officiers d'un rang supérieur. Ici, l'on me fait entendre, à moi non noble et sous-lieutenant seulement, que je suis l'égal de tout le monde, au moins. La vanité blessée de Leven rendait bien vif, chez lui, le plaisir de réussir. Messieurs de Serpierre et de Vassigny, dans le feu de leur discussion, s'arrêtaient souvent à l'autre bout du salon. Leven sut profiter de ces instants de liberté complète et on l'écoutait avec une admiration tendre. Ces messieurs étaient à l'autre bout du salon depuis plusieurs minutes, arrêtés apparemment par quelques raisonnements frappants de M. de Vassigny en faveur des vastes terres et de la culture en grand, si favorables à la noblesse, quand arriva tout à coup, jusqu'à deux pas de madame d'Aucuncourt, madame de Chastelet, suivant de près, avec sa démarche jeune et légère, le laquais qu'il annonçait et que l'on n'avait pas écouté. Il lui fut impossible de ne pas voir dans les yeux de madame d'Aucuncourt, et même dans ceux de Leven, combien elle arrivait peu à propos. Elle se mit à parler beaucoup, avec gaieté et à voix haute, de ce qu'elle avait remarqué dans ses visites de la soirée. De cette façon, madame d'Aucuncourt ne fut point embarrassée. Madame de Chastelet fut même mauvaise langue et commère, chose que jamais Leven n'avait vue chez elle. « De la vie, je ne lui aurais pardonné, se dit-il, si elle s'était mise à faire de la vertu et à embarrasser cette pauvre petite d'Aucuncourt. Au milieu de tout cela,
elle a fort bien vu la nuance de trouble que commençait à créer mon talent pour la séduction. Leven était à demi sérieux en se prononçant cette phrase. Madame de Chastelet lui parla avec liberté et grâce, comme à l'ordinaire. Elle ne disait rien qui fût remarquable, mais grâce à elle, la conversation était vivante et même brillante, car rien n'est amusant comme le commérage bien fait. Messieurs de Vassigny et de Serpierre avaient quitté leur politique et s'étaient rapprochés, attirés par les grâces de la médisance. Leven parlait assez souvent. « Il ne faut pas qu'elle s'imagine que je suis absolument au désespoir parce qu'elle m'a fermé sa porte. » Mais en parlant et tâchant d'être aimable, il oublia jusqu'à l'existence de Madame d'Aucuncourt. Sa grande affaire, au milieu de son air riant et désoccupé, était d'observer du coin de l'œil si ses beaux propos avaient quelque succès auprès de Madame de Chastelet. « Quel miracle mon père ne ferait-il pas à ma place ?» pensait Leven. « Dans une conversation ainsi adressée à une personne pour être entendue par une autre. Il trouverait encore le moyen de la faire satirique ou complimenteuse pour une troisième. Je devrais, par le même mot qui doit agir sur Madame de Chastelet, continuer à faire la cour à Madame d'Aucuncourt. » Ce fut la seule fois qu'il pensa à celle-ci, et encore à travers son admiration pour l'esprit de son père. L'unique soin de Madame de Chastelet était, de son côté, de voir si Leven s'apercevait de la vive peine qu'elle avait éprouvée en le trouvant établi ainsi d'un air d'intimité auprès de Madame d'Aucuncourt. « Il faudrait savoir s'il s'est présenté chez moi avant de venir ici, » pensait-elle. Peu à peu, il vint beaucoup de monde. Monsieur de Murcet, de Sanréal, Rollet, de Lanfort et quelques autres inconnus au lecteur, et dont, en vérité, il ne vaut pas la peine de lui faire faire la connaissance. Ils parlaient trop haut et gesticulaient comme des acteurs. Bientôt parurent mesdames de Puylaurent, de Saint-Cyran et enfin Monsieur Dantin lui-même. Malgré elle, Madame de Chastelet regardait toujours les yeux de sa brillante rivale. Après avoir répondu à tout le monde et fait rapidement le tour du salon, ses yeux, qui ce soir-là avaient presque le feu de la passion, revenaient toujours à Leven et semblaient le contempler avec une curiosité vive. Ou plutôt, il lui demande de l'amuser, se disait Madame de Chastelet. Monsieur Leven lui inspire plus de curiosité que Monsieur Dantin, voilà tout. Ses sentiments ne vont pas au-delà pour aujourd'hui. Mais chez une femme de ce caractère, les incertitudes ne sont pas de longue durée. Rarement Madame de Chastelet avait eu une sagacité aussi rapide. Ce soir-là, un commencement de jalousie la vieillissait. Quand la conversation fut bien animée et que Madame de Chastelet put se taire sans inconvénient, sa physionomie devint assez sombre. Ensuite, elle s'éclaircit tout à coup. « Monsieur Leven, se dit-elle, ne parle pas à Madame d'Aucuncourt avec le son de voix qu'on a en parlant à ce qu'on aime. » Pour se soustraire un peu aux compliments de tous les arrivants, Madame de Chastelet s'était rapprochée d'une table sur laquelle était jetée une foule de caricatures contre l'ordre des choses. Leven bientôt cessa de parler, elle s'en aperçut avec délice. « Serait-il vrai ? » se dit-elle. « Quelle différence cependant de ma sévérité, qui peut-être est un peu rude et tient à mon caractère trop sérieux. Avec la joie, le laisser-aller, les grâces toutes nouvelles, toutes naturelles de cette brillante d'Aucuncourt. Elle a eu trop d'amants, mais d'abord, est-ce un défaut aux yeux d'un sous-lieutenant de 23 ans et qui a des opinions si singulières? Et d'ailleurs, le sait-il? » Leven changeait fort souvent de position dans le salon. Il était enhardi à ses mouvements fréquents, parce qu'il voyait tout le monde fort occupé de la nouvelle qui venait de se répandre qu'un camp de cavalerie allait être formé près de Lunéville. Cette nouvelle imprévue fit entièrement oublier Leven et l'attention que Madame d'Aucuncourt lui accordait ce soir-là. Lui, de son côté, avait également oublié les personnes présentes. Il ne se souvenait d'elles que pour craindre les regards curieux. Il brûlait de s'approcher de la table des caricatures, mais il trouvait que de sa part ce serait un manque de dignité impardonnable. Peut-être même un manque d'égard envers Madame de Chastelet, ajoutait-il avec amertume. Elle a voulu m'éviter chez elle, et j'abuse de ma présence dans le même salon qu'elle pour la forcer à m'écouter. Tout en trouvant ce raisonnement sans réplique, au bout de quelques minutes, Leven se vit si rapproché de la table sur laquelle Madame de Chastelet était un peu penchée, que ne pas lui parler du tout eût été une chose marquée. « Ce serait du dépit, » se dit Leven, « et c'est ce qu'il ne faut pas. » Il rougit beaucoup. Le pauvre garçon n'était pas assez sûr dans ce moment des règles du savoir-vivre. Elles disparaissaient à ses yeux. Il les oubliait. Madame de Chastelet, en éloignant une caricature pour en prendre une autre, leva un peu les yeux et vit bien cette rougeur, qui ne fut pas sans influence sur elle. Madame d'Aucuncourt, de loin, voyait fort bien aussi tout ce qui se passait près de la table verte, et M. Dantin, qui cherchait à l'amuser dans ce moment par une histoire plaisante, lui parut un conteur infini dans ses développements. Leven osa lever les yeux sur Madame de Chastelet, mais il tremblait de rencontrer les siens, ce qui l'eût forcé de parler à l'instant. Il trouva qu'elle regardait une gravure, mais d'un air hautain et presque en colère. La pauvre femme avait eu la mauvaise pensée de prendre la main de Leven, qu'il appuyait sur la table en tenant de l'autre une gravure, et de la porter à ses lèvres. Cette idée lui avait fait horreur et l'avait mise dans une véritable colère contre elle-même. « Et j'ose quelquefois blâmer avec hauteur Madame d'Aucuncourt !» se dit-elle. Dans le moment encore, j'osais la mépriser. Je jurerais bien qu'une aussi infâme tentation ne s'est pas présentée à elle de toute la soirée. Dieu, d'où de telles horreurs peuvent-elles me venir? Il faut en finir, se dit Leven, un peu choqué de cet air hautain. Et puis, n'y plus songer. Quoi, madame? « Serais-je assez malheureux pour vous inspirer encore de la colère? S'il en est ainsi, je m'éloigne à l'instant. » Elle leva les yeux et ne put s'empêcher de lui sourire avec une extrême tendresse. « Non, monsieur, lui dit-elle quand elle put parler, j'avais de l'humeur contre moi-même pour une sotte idée qui m'était venue. Dieu, dans quelle histoire est-ce que je m'engage? Il ne me manque plus que de lui en faire confidence. » Elle devint si excessivement rouge que Madame d'Aucuncourt, dont l'œil ne les avait pas quittés, se dit « Les voilà réconciliés, et mieux que jamais. En vérité, s'ils l'osaient, ils se jetteraient dans les bras l'un de l'autre. » Leven allait s'éloigner. Madame de Chastelet le vit. « Restez auprès de moi, lui dit-elle. Mais en vérité, je ne saurais vous parler en ce moment. » Et ses yeux se remplirent de larmes. Elle se baissa beaucoup et regarda attentivement une gravure. « Ah, nous en sommes aux larmes !» se dit Madame d'Aucuncourt. Leven était tout interdit et se disait « Est-ce amour? Est-ce haine? Mais il me semble que ce n'est pas de l'indifférence. Raison de plus pour m'éclaircir et en finir. » « Vous me faites tellement peur que je n'ose vous répondre, » lui dit-il d'un air en effet fort troublé. « Et que pourriez-vous me dire ? » reprit-elle avec hauteur. « Que vous m'aimez, mon ange. Dites-le-moi, je n'en abuserai jamais. » Madame de Chastelet allait dire « Eh bien, oui, mais ayez pitié de moi. » Lorsque Madame d'Aucuncourt, qui s'approchait rapidement, frôla la table avec sa robe de toile anglaise toute raide d'apprêt, et ce fut par ce bruit seulement que Madame de Chastelet s'aperçut de sa présence. un dixième de seconde de plus, et elle répondait à Leven devant madame d'Aucuncourt.
Dieu, quelle horreur, pensa-t-elle. Et à quelle infamie suis-je donc réservée ce soir? Si je lève les yeux, madame d'Aucuncourt, lui-même, tout le monde verra que je l'aime. Ah, quelle imprudence j'ai commise en venant ici ce soir. Je n'ai plus qu'un parti à prendre. Dussé-je périr à cette place, je vais rester ici, immobile et en silence. Peut-être ainsi parviendrai-je à ne plus rien faire dont je doive rougir.
Les yeux de madame de Chastelet restèrent en effet fixés sur une gravure, et elle se baissa extrêmement sur la table. Madame d'Aucuncourt attendit un instant que madame de Chastelet relevât les yeux, mais sa méchanceté n'alla pas plus loin. Elle n'eut point l'idée de lui adresser quelques paroles piquantes, qui, tout en augmentant son trouble, l'eût forcé à relever les yeux et à se donner en spectacle. Elle oublia madame de Chastelet et n'eut plus Dieu que pour Leven. Elle le trouva ravissant en ce moment. Il avait des yeux tendres et cependant un petit air mutin. Lorsqu'elle ne pouvait pas s'en moquer chez un homme, cet air mutin décidait de la victoire. Chapitre 21. Dans ses promenades aux environs de Nancy, Lucien remarqua un magnifique cheval anglais. « Ce cheval vaut 10, 12, 15 000 francs, qui sait ?» se disait-il. « Mais peut-être il a des défauts. Il me semble un peu serré des épaules. » L'homme qui le montait était fort à cheval, mais la tournure était celle d'un palefrenier qui a gagné un gros lot à une loterie de Vienne, en Autriche. « Le cheval serait-il à vendre ?» pensait Lucien. « Mais jamais je n'oserais, cela est trop cher. » À la seconde ou troisième fois que Lucien vit ce cheval, il se trouva plus près et remarqua la figure du cavalier, qui était mis avec une recherche extraordinaire et dont la mine lui sembla affectée, précisément parce qu'elle cherchait à conserver l'expression non affectée qu'un homme a quand il est seul dans sa chambre à se faire la barbe. « Ma mère a raison, se dit Lucien. Ces Anglais sont les rois de l'affectation. » Et il ne pensa plus qu'au cheval. Mais son admiration croissait à chaque fois qu'il le rencontrait. Madame d'Aucuncourt lui faisant compliment, un jour sur le sien, « Il n'est pas mal, je lui suis réellement attachée, mais j'en rencontre un quelquefois qui, s'il n'a pas quelques défauts cachés, est pour la légèreté des mouvements de beaucoup supérieur. Ce cheval semble ne pas toucher terre, ou plutôt on croirait que la terre est élastique, et dans les mouvements vifs, par exemple, au trot, le lance en l'air. Vous perdez terre vous-même, mon cher lieutenant. Quel feu! Les beaux yeux que vous avez quand vous parlez de ce que vous aimez. Vous êtes un autre homme. En vérité, par pure coquetterie, vous devriez aimer et être amant indiscret et parler de votre objet. Ce que j'aime dans ce moment n'abuse pas de son empire sur moi. J'aurais peur de mes folies si j'aimais réellement. Elles éteindraient bientôt l'amour qu'on pourrait avoir pour moi, et le malheur ne se ferait pas longtemps attendre. Vous autres femmes, vous ne passez pas pour vous exagérer le mérite de ce qu'on vous offre sans cesse et de trop grand cœur. » Madame d'Aucuncourt fit une petite mine très agréable pour Lucien. « Et ce cheval aimé est monté par un grand homme blond, de moyen âge, menton en avant et figure d'enfant ?»«
Qui monte fort bien, mais en se donnant trop de mouvements des bras. »
Lui, de son côté, prétend que les Français ont l'air raides à cheval. Je le connais assez. C'est un milord anglais, dont le nom s'écrit avec une orthographe extraordinaire, mais se prononce à peu près « Link ».
Et que fait-il ici ?
Il monte à cheval. On le dit exilé d'Angleterre. Voici 3 ou 4 ans qu'il nous a fait l'honneur de s'établir parmi nous. Mais comment n'avez-vous pas été à son bal du samedi ?
Il y a si peu de temps que j'ai l'honneur d'être admis dans la société de Nancy. Ce sera donc moi qui aurai celui de vous mener au bal qu'il nous donne régulièrement le premier samedi de chaque mois, hiver comme été. Il n'y en a pas eu il y a 15 jours parce que c'était l'avant et que Monsieur Ray ne veut pas. C'est un drôle d'homme que votre Monsieur Ray et l'empire qu'il exerce sur vous. Ah, mon Dieu, pourquoi n'avez-vous pas dit cela à Madame de Serpierre, que vous aimez tant? Quel serment vous auriez eu? C'est votre maître à toutes que ce Monsieur Ray. Que voulez-vous? Il nous répète sans cesse que nos pauvres privilèges ne peuvent redevenir ce qu'ils étaient dans le bon temps que par le retour des jésuites. C'est bien triste à penser, mais enfin, l'indispensable avant tout. Il ne faut pas que la République revienne pour nous envoyer à l'échafaud, comme en 93. D'ailleurs, Monsieur Ray, personnellement, n'est point ennuyeux. Il m'amuse toujours pendant 20 minutes au moins. Ce sont ses lieutenants qui sont pesants. Lui est homme de mérite, amusant même. Du moins, on ne s'ennuie pas quand il parle. Il a voyagé. Il a été employé 4 ans en Russie et 2 ou 3 fois en Amérique. On l'emploie dans les postes difficiles. Il nous est venu depuis les Glorieuses. Je lui trouve l'air un peu américain. C'est un Américain de Toulouse. Me présenterez-vous aussi à Monsieur Ray? Non, vraiment, il trouverait cette présentation tout à fait impropre. C'est un homme qu'il nous faut ménager. Cela a du crédit sur les maris. Mais je vous présenterai au Milord Link, lequel est remarquable par ses dîners. J'avais compris qu'il ne recevait jamais. Ce sont des dîners qu'il se donne à lui-même. On dit qu'il en a chaque jour 3 ou 4 de préparés à Nancy et dans les villages environnants. Il va manger celui dont il se trouve le plus rapproché à l'heure de l'appétit. Pas mal inventé. Monsieur de Vassigny, qui est un savant, dit que Lord Link est un grand partisan du système de l'utile en toutes choses, et avant tout prêché par un Anglais célèbre, un nom de prophète. Jérémy Bentham, peut-être? Justement! C'est un ami de mon père. Eh bien, ne vous en vantez pas au milord anglais. Monsieur de Vassigny dit que c'est leur bête noire, et Monsieur Ray nous assurait l'autre jour que ce Jérémy anglais serait 100 fois pis que Robespierre s'il avait le pouvoir. Et le milord Link est détesté de ses collègues pour être partisan de ce terroriste anglais. Enfin, pour comble de ridicule, il est ruiné et ne peut plus vivre dans le West End. C'est le quartier à la mode de Londres, car il a tout juste 4 000 livres de rente, c'est-à-dire 100 000 francs. Et il les mange ici? Non, il fait des économies malgré ses 4 dîners, et va de temps à autre à Paris manger son argent en fort mauvaise compagnie. Il prétend lui-même qu'il n'aime la bonne compagnie qu'en province. On dit qu'à Paris, il parle. Ici, il nous fait bien l'honneur de passer toute une soirée sans desserrer les dents. Mais il perd toujours à tous les jeux. Et je vous dirai un soupçon qui m'est venu, mais gardez-moi le secret. J'ai cru voir qu'il perd exprès. Il est homme à se dire « Je ne suis pas aimable, surtout pour les sots. Eh bien, je perdrai. » Les vieilles femmes de l'hôtel de Marcilly l'adorent. Pas mal, en vérité. Mais c'est vous qui lui prêtez de l'esprit. À présent que vous m'expliquez le personnage, il me semble que je l'ai vu chez Madame de Serpierre. Je disais un jour que, quelque esprit qu'est un Anglais, il a toujours l'air, quand on le rencontre le matin, de venir d'apprendre à l'instant même qu'il est compris dans une banqueroute. Mademoiselle Théodelaine me fit des yeux terribles de réprimande, et plus tard j'oubliais de lui en demander la raison. Elle avait tort. Le milord ne se serait point fâché. Il dit, quand on le lui demande, qu'il méprise tant les hommes qu'à moins qu'on ne le prenne par le bouton de son habit pour lui dire une injure, il ne demande jamais la parole. Est-ce que le Père éternel me paie pour redresser les sottises du genre humain ? Disait-il un jour à Monsieur de San Réal, qui ne savait pas trop s'il ne devait se fâcher. «
car il venait de dire, coup sur coup, trois ou quatre sottises bien insipides. Il y a l'une Vingroller qui prétend que le milord n'est pas sujet à se fâcher. En vérité, je ne vois pas pourquoi. Depuis juillet, ce pauvre Ludwig n'a pas décoléré. Les 2000 francs de sa place de lieutenant sont un objet pour lui. D'ailleurs, il ne sait plus de quoi parler. Il étudiait beaucoup son métier et prétendait devenir maréchal de France. Ils ont eu un cordon rouge dans la famille.
Je ne sais pas s'il sera maréchal, mais il est assommant avec les théories de M. Ray dont il s'est fait le répétiteur. Il prétend que le code civil est horriblement immoral, à cause de l'égale division des biens du père de famille entre les enfants. Il faut absolument rétablir les ordres monastiques et mettre toutes les terres de France en pâturage. Je ne m'oppose point à ce que la France soit un pâturage, mais je m'oppose à ce qu'on parle 20 minutes de la même chose.
Eh bien, tout cela n'est point ennuyeux dans la bouche de M. Ray.
En revanche, son élève, M. Roller, m'a fait déserter 2 ou 3 fois, dès 9 heures, le salon de Mme de Serpierre, où il avait pris la parole. Et ce qu'il y a de pis, c'est qu'il ne savait rien répondre aux objections.
On revint au Milord Link.
Le Milord aussi, dit Mme d'Aucuincourt, fait de bonnes critiques de notre France.
Bah, je les entends d'ici. Pays de démocratie, d'ironie, de mauvaises mœurs politiques. Nous manquons de bourgs pourris, et chez nous on trouve toujours des terres à vendre. Donc nous ne valons rien.
Oh, rien n'est ennuyeux comme l'Anglais qui se prend de colère parce que toute l'Europe n'est pas une servile copie de son Angleterre. Ces gens n'ont de bon que les chevaux et leur patience à conduire un vaisseau.
Eh bien, c'est vous qui blâmez. Aboc et abac. D'abord, ce pauvre Milord dit toujours ce qu'il a à dire en 2 mots. Et puis, il dit des choses si vraies qu'on ne les oublie plus. Enfin, il n'est pas anglais en 1 point. S'il trouve que vous montez bien un cheval, il vous fera monter les siens, et même le fameux Soliman. C'est apparemment celui que vous admirez.
Diable ! Dit Lucien. « Ceci change la thèse. Je vais faire la cour à ce pauvre mari trompé. »«
Venez dîner, après-demain, je vais l'engager. Il ne me refuse jamais, et il refuse presque toujours Madame depuis Laurent. »«
Ma foi, la raison n'est pas difficile à deviner. »«
Eh bien, je ne sais quel insipide flatteur répétait cela un beau jour devant lui et devant moi. » Je cherchais une réponse à un compliment aussi fort, quand il me tira d'embarras en disant simplement « Madame depuis Laurent a trop d'esprit ». Il fallait voir la mine de Dantin, qui était entre le Milord et moi. Malgré son esprit, il devint rouge comme un coq.
Madame depuis Laurent et Dantin font profession de se tout dire. Je voudrais bien savoir s'il aura conté ce beau dialogue. Qu'auriez-vous fait à sa place ? Etc., etc. Cela ne prépare point, je l'avoue, à l'aveu d'un tendre penchant, mais je me garderai bien de vous parler sur ce ton. J'ai trop peur de vous aimer. Quand vous m'auriez rendu tout à fait fou, vous vous moqueriez de moi.
Chapitre 22. Madame de Chastelet avait oublié son amour pour être uniquement attentive aux soins de sa gloire. Elle prêta l'oreille à la conversation générale. On disait du mal de Louis-Philippe. Milord Link, qui était au milieu d'eux depuis 1 heure sans ouvrir la bouche, leur dit avec son air inanimé « Un homme avait un bel habit. Son cousin le lui vola. Les amis du premier, en voulant faire la guerre au second, perçaient et abîmaient le bel habit. Qu'aurais-je donc si vous triomphez ? S'écriait le volé. Que restera-t-il donc de la royauté ? Pourrait vous dire Henri V. L'illusion qui est nécessaire à ce genre de comédie, où la prendrai-je ? Quel Français sera aux anges parce que le roi lui a parlé ? Cela dit, Milord Link crut avoir payé son billet d'entrée et ne desserra plus les dents. Le camp de Lunéville et ses suites probables, qui n'étaient rien moins que la chute immédiate du pouvoir usurpateur qui avait l'imprudence d'en ordonner la formation, occupait encore toutes les attentions. Mais on en était à répéter des idées et des faits déjà dits plusieurs fois. On était beaucoup plus sûr de la cavalerie que de l'infanterie, etc., etc. « Ce rabâchage, pensa madame de Chastelet, va bientôt impatienter madame de Puylaurent. Elle va prendre un parti pour ne pas s'ennuyer. Placée auprès d'elle et dans les rayons de sa gloire, je pourrai écouter et me taire. Et surtout, monsieur Leven ne pourra plus me parler. » Madame de Chastelet traversa le salon sans rencontrer Leven. Ce fut un grand point. Si ce beau jeune homme avait eu un peu de talent, il se faisait dire qu'on l'aimait et se fut fait donner parole qu'on le recevait tous les jours de la vie. On connaissait le goût de madame de Chastelet pour l'esprit brillant de madame de Puylaurent. Elle se plaça auprès d'elle. Madame de Puylaurent décrivait l'abandon malséant et la solitude ennuyeuse où la désertion de la bonne compagnie des environs allait laisser le prince. Réfugiée dans ce port, madame de Chastelet, qui se sentait presque les larmes aux yeux et qui surtout était hors d'état de regarder Leven, rit beaucoup des ridicules que madame de Puylaurent donnait à tout ce qui se mêlait du camp de Lunéville. Madame de Chastelet, une fois remise du mauvais pas et du moment de terreur qui lui avait fait tout oublier, remarqua que madame d'Aucuncourt ne quittait plus d'un pas monsieur Leven. Elle semblait vouloir le faire parler, mais madame de Chastelet croyait voir, à la vérité de fort loin, qu'il était assez taciturne. Serait-il choqué du ridicule que l'on veut jeter sur le prince qu'il sert? Mais il me l'a dit 100 fois, il ne sert aucun prince, il sert la patrie, et trouve fort ridicule la prétention du premier magistrat qui fait appeler ce métier être à son service. C'est ce que je prétends lui montrer, ajoute souvent monsieur Leven, en aidant à le détrôner s'il continue à fausser ses paroles. Si seulement nous pouvons nous trouver 1000 citoyens à penser de même. Tout cela a été pensé avec un petit acte d'admiration pour son amant, sans quoi tous ces détails de politique eussent été bien vite écartés. Lucien lui avait fait le sacrifice de son libéralisme et elle, à lui, celui de son ultracisme. Ils étaient depuis longtemps parfaitement d'accord là-dessus. « Ce silence, continua madame de Chastelet, voudrait-il montrer de l'insensibilité pour la cour marquée que lui fait madame d'Aucuncourt? Il doit se croire bien maltraité par moi. Serait-il malheureux? En serais-je la cause? » Madame de Chastelet n'osait le croire. Et cependant son attention avait redoublé. Leven parlait fort peu, en effet. Il fallait comme lui arracher les paroles. Sa vanité lui avait dit « Il est possible que madame de Chastelet se moque de vous. S'il en est ainsi, bientôt tout Nancy l'imitera. Madame d'Aucuncourt serait-elle du complot? En ce cas, auprès d'elle, je ne dois montrer des prétentions que le lendemain de la victoire. Et ici, si l'on songe à moi, 40 personnes peuvent m'observer. Dans tous les cas, mes ennemis ne manqueront pas de dire que je lui fais la cour pour masquer ma déconvenue auprès de Bathilde. Il faut montrer à ces bourgeois malveillants que c'est elle qui me fait la cour. Et pour ce faire, je ne dirai pas un mot du reste de la soirée. J'irai jusqu'au manque de politesse. » Ce caprice de Leven redoubla celui de madame d'Aucuncourt. Elle n'eut plus d'yeux ni d'oreilles pour monsieur Dantin. Elle lui dit 2 ou 3 fois d'un air bref et comme pressé de s'en délivrer. « Mon cher Dantin, ce soir vous êtes ennuyeux !» Puis elle revenait bien vite à l'examen de ce problème si intéressant. Quelque chose a choqué Leven. Ce silence ne lui est pas naturel. Mais qu'ai-je pu faire qui ait pu lui déplaire ? Comme Leven ne s'approcha pas une seule fois de madame de Chastelet, madame d'Aucuncourt en conclut aisément que tout était fini entre eux. D'ailleurs, elle devait à son heureux caractère, à son génie naturel, ce point de dissemblance marqué avec la province. Elle s'occupait infiniment peu des affaires des autres, et poursuivait en revanche avec une activité incroyable les projets qui se présentaient à sa tête folle. Les siens sur Leuven furent facilités par une circonstance grave. C'était vendredi le lendemain, et pour ne pas participer à la profanation de cette journée de pénitence, M. d'Aucuincourt, jeune homme de 28 ans, aux belles moustaches châtaines, s'était allé coucher longtemps avant minuit. À l'instant de son départ, Madame d'Aucuincourt avait fait servir du vin de champagne et du punch. « On dit, pensait-elle, que mon bel officier aime à s'enivrer. Il doit être bien joli dans cet état-là. Voyons-le. » Mais Leuven ne se départit point d'une fatuité digne de sa patrie. Pendant toute la fin de cette soirée, il ne daigna pas dire 3 mots de suite. Ce fut là tout le spectacle qu'il présenta à Madame d'Aucuincourt. Elle en fut étonnée au dernier point et à la fin ravie. « Quel être étonnant, et à 23 ans, pensait-elle. Quelle différence avec les autres !» L'autre partie du duetto, pensée par Leuven, était celle-ci. On ne saurait être trop chargé avec ces oberossi. C'est pour le coup qu'il faut frapper fort. La bêtise des raisonnements qu'il entendait faire sur le camp de Lunéville, d'où devait sortir évidemment la chute du roi, ne le piquait nullement à cause de l'habit qu'il portait, mais 2 ou 3 fois elle lui arracha, sur le ton d'une prière éjaculatrice, « Grand Dieu, dans quelle plate compagnie le hasard m'a-t-il jeté? Que ces gens sont bêtes, et s'ils en avaient l'esprit, peut-être encore plus méchants. Comment faire pour être plus sot et plus mesquinement bourgeois? Quel attachement farouche au plus petit intérêt d'argent! Et ce sont là les descendants des vainqueurs de Charles le Téméraire. » Telles étaient ses pensées en buvant avec gravité les verres de vin de champagne que Madame d'Aucuincourt lui versait avec ravissement. Est-ce que je ne pourrais donc pas lui faire quitter cet air hautain? Pensait-elle. Et Leuven ajoutait tout bas. Les domestiques de ces gens-ci, après 2 ans de guerre dans un régiment commandé par un colonel juste, vaudraient 100 fois mieux que leur maître. On trouverait chez ces domestiques un dévouement sincère à quelque chose. Et pour comble de ridicule, ces gens-ci parlent sans cesse de dévouement, c'est-à-dire justement de la chose au monde dont ils sont le plus incapables. Ces pensées égoïstes, philosophiques, politiques, très fausse peut-être, était la seule ressource de Leuven quand Madame de Chastelet le rendait malheureux. Ce qui faisait de Leuven un sous-lieutenant philosophique, c'est-à-dire triste et assez plat, sous l'effet d'un vin de champagne admirablement frappé, comme c'était la mode alors, c'était une idée fatale qui commençait à poindre dans son esprit. Après ce que j'ai osé dire à Madame de Chastelet, après ce mot de mon ange, d'une familiarité si crue. En vérité, quand je lui parle, je n'ai pas le sens commun. Je devrais écrire ce que je veux lui dire. Où est la femme, quelque indulgente qu'elle soit, qui ne s'offenserait pas d'être appelée mon ange, surtout quand elle ne répond pas du même ton? Après ce mot, si cruellement imprudent, le premier qu'elle m'adressera va décider de mon sort. Elle me chassera. Je ne la verrai plus. Il faudra voir Madame d'Aucuincourt. Et combien je vais être excédée par ces empressements continus et sans mesure. Et il faudra m'y soumettre tous les soirs. Si je m'approche de Madame de Chastelet, mon sort peut se décider ici. Et je ne pourrai pas répliquer. D'ailleurs, elle peut être encore dans le premier transport de la colère. Si ce mot est... Je ne serai pas chez moi avant le 15 du mois prochain. » Cette idée fit tressaillir Leuven. « Sauvons du moins la gloire. Il faut redoubler de fatuité atroce envers ces nobilions. Leur haine pour moi ne peut pas être augmentée, et ces âmes basses me respecteront en raison directe de mon insolence. » À ce moment, un des contrôlés disait à Monsieur de San Réal, déjà fort animé par le punch. « Suis-moi, il faut que je m'approche de ce fa-là et lui dise deux mots fermes sur son roi Louis-Philippe. » Mais alors, précisément, cette horloge à l'allemande, qui avait tant de pouvoir sur le cœur de Leven, sonnait avec tous ses carillons 1 heure du matin. Madame la marquise de Puylaurent elle-même, malgré son amour pour les heures avancées, se leva et tout le monde la suivit. Ainsi, notre héros n'eut point à montrer sa bravoure ce soir-là. « Si j'offre mon bras à Madame de Chastelet, elle peut me dire un mot décisif. » Il se tint immobile à la porte et il la vit passer devant lui, les yeux baissés et fort pâles, donnant le bras à Monsieur de Blancet. « Et c'est là le premier peuple de l'univers !» pensait Leven en traversant les rues solitaires et puantes de Nancy pour revenir à son logement. « Grand Dieu ! Que doit-il se passer dans les soirées des petites villes de Russie, d'Allemagne, d'Angleterre ? Que de bassesse ! Que de cruauté froidement atroce ! Là règne ouvertement cette classe privilégiée que je trouve, ici, à demi engourdie et matée par son exil du budget. Mon père a raison, il faut vivre à Paris, et uniquement avec les gens qui mènent joyeuse vie. Ils sont heureux, et par là moins méchants. L'âme de l'homme est comme un marais infect si l'on ne passe vite. On enfonce. Un mot de Madame de Chastelet eût changé ses idées philosophiques en extase de bonheur. L'homme malheureux cherche à se fortifier par la philosophie, mais pour premier effet, elle l'empoisonne, jusqu'à un certain degré en lui faisant voir le bonheur impossible. Le lendemain matin, le régiment eut beaucoup d'affaires. Il fallait préparer le livret de chaque lancier pour l'inspection qui devait avoir lieu avant le départ pour le camp de Lunéville. On devait inspecter leur habillement pièce par pièce. « Ne dirait-on pas, se disaient les vieilles moustaches, que nous allons passer la revue de Napoléon ?»« C'est plus qu'il n'en faut, disaient les jeunes sous-officiers. Pour la guerre de peau de chambre et de pommes cuites à laquelle nous sommes appelés, quel dégoût! Mais si jamais il y a guerre, il faut se trouver ici et savoir le métier. » Après le travail d'inspection dans les chambres de la caserne, le colonel donna 1 heure pour la soupe, fit sonner à cheval et tint le régiment 4 heures à la manœuvre. Leven porta dans ses diverses occupations un sentiment de bienveillance pour les soldats. Il se sentait une tendre pitié des faibles et, au bout de quelques heures, il n'était plus qu'amant passionné. Il avait oublié Madame d'Aucuincourt, ou, s'il s'en souvenait, ce n'était que comme un pis-aller qui sauverait sa gloire, mais en l'accablant d'ennui. Son affaire sérieuse, à laquelle il revenait dès que le mouvement actuel ne s'emparait pas de force de toute son attention, c'était ce problème. « Comment Madame de Chastelet me recevra-t-elle ce soir ?» Dès que Leven fut seul, son incertitude à cet égard alla jusqu'à l'anxiété. Après la pension, il tira sa montre en montant à cheval. « Il est 5 heures. Je serai de retour ici à 7h30, et à 8, mon sort sera décidé. » Cette façon de parler, mon ange, est peut-être de mauvais goût avec tout le monde. Envers une femme légère comme Madame d'Aucuincourt, elle pourrait passer. Un mot galant et vif sur sa beauté l'excuserait. Mais avec Madame de Chastelet, par quelle imprudence ce mot si cru a-t-il été mérité par cette femme sérieuse, raisonnable, sage? Oui, sage. Car enfin, je n'ai pas vu son intrigue avec le lieutenant-colonel du régiment de hussards. Et ces gens-ci sont si menteurs, si calomniateurs. Quelle foi peut-on ajouter à ce qu'ils disent? D'ailleurs, voici longtemps que je n'en entends plus parler. Enfin, pour le trancher net, je ne l'ai pas vu, et désormais je ne veux croire que ce que j'aurais vu. Il y a peut-être des nigauds parmi ces gens d'hier qui, voyant le ton que j'ai pris avec madame d'Aucuncourt et ses prévenants incroyables, diront que je suis son amant. Eh bien, tel pauvre diable qui en serait amoureux croirait à leur rapport. Non, un homme sensé ne croit qu'à ce qu'il a vu, et encore bien vu. Dans les façons de madame de Chastelet, qu'est-ce qui trahit une femme habituée à ne pas vivre sans amant? On pourrait au contraire l'accuser d'un excès de réserve, de pruderie. La pauvre femme. Hier, plusieurs fois, elle a été gauche par timidité. Avec moi, souvent en tête à tête, elle rougit et ne peut pas terminer sa phrase. Évidemment, la pensée qu'elle voulait exprimer l'a abandonnée. Comparée à toutes ces dames d'hier soir, la pauvre femme a l'air de la déesse de la chasteté. Les demoiselles de Serpierre, dont la vertu est proverbiale dans le pays, à l'esprit près n'ont pas un ton différent du sien. La moitié des idées de madame de Chastelet leur sont invisibles, voilà tout, et ces idées ne peuvent s'exprimer qu'avec un langage un peu philosophique, et qui, par là, a l'air moins retenu. Même, je puis dire à ces demoiselles bien des choses dont madame de Chastelet conçoit la portée et qu'elle ne souffre pas. En un mot, de tous ces gens d'hier soir, à peine croirais-je leur témoignage quand il s'agirait d'un fait matériel. Je n'ai contre madame de Chastelet de témoignage explicite que celui du maître de poste Bouchard. J'ai eu tort de ne pas cultiver cet homme. Quoi de plus simple que de prendre des chevaux chez lui et d'aller les choisir dans son écurie? C'est lui qui m'a donné mon marchand de foin, mon maréchal. Ces gens me voient d'un bon œil. Je suis un nigaud. Leven ne s'avouait pas que la personne de Bouchard lui faisait horreur. C'était le seul homme qui eût parlé ouvertement mal de madame de Chastelet. Les demi-mots qu'il avait surpris un jour chez madame de Serpierre étaient fort indirects. Sa hauteur, à laquelle personne dans Nancy se fût bien gardé d'assigner une autre cause que les 15 ou 20 000 francs de rente que son mari lui avait laissée en mourant, n'était que l'impression de l'impatience que lui causaient les compliments un peu trop directs dont cette fortune la rendait l'objet. Tout en faisant ces tristes raisonnements, Leven maintenait son cheval au grand trot. Il entendit sonner 6h30 à l'horloge d'un petit village à mi-chemin de Darnay. « Il faut retourner, » pensa-t-il, « et dans 1h30 mon sort sera décidé. » Tout à coup, au lieu de tourner la tête de son cheval, il le poussa au galop. Il ne cessa de galoper qu'à Darnay, cette petite ville où autrefois il était allé chercher une lettre de madame de Chastelet. Il tira sa montre, il était 8 heures. « Impossible de voir ce soir madame de Chastelet, » se dit-il en respirant plus librement. C'était un malheureux condamné qui vient d'obtenir un sursis. Le lendemain soir, après la journée la plus occupée de sa vie et pendant laquelle il avait changé 2 ou 3 fois de projet, Leven fut cependant forcé de se présenter chez madame de Chastelet. Elle le reçut avec ce qui lui sembla une froideur extrême. C'était de la colère contre soi-même et de la gêne avec Leven.